Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Résonance sur Radio B. Résonance, une émission qui donne la parole, accompagne tous ceux et toutes celles qui s'aventurent sur les chemins des pratiques artistiques et de la création. Résonance part sur les routes de la région. Aujourd'hui, 7e émission de notre enquête régionale, conservatoire et handicap, où en est-on ? Cette enquête nous conduit au sein de différentes écoles de musique, associatives, municipales, de conservatoires de musique, soit rayonnement départemental ou régional de la région Rhône-Alpes. Avec les équipes d'enseignants, la direction, les parents d'élèves, les élèves ou adultes en situation de handicap, nous observons quelle est la situation en 2014. Comment les enfants ou les adultes en situation de handicap sont accueillis dans ces espaces de pratique musicale? Comment cela se passe? Comment favorise-t-on l'accueil du handicap en milieu ordinaire, dans l'école de musique, dans le conservatoire? Vous écoutez Résonance sur Radio B. Après le conservatoire régional d'Annecy, l'école de musique de Bassin, implantée au sein du centre hospitalier et de soins, le conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-en-Bresse agglomération, le conservatoire Hector Berlioz, communauté d'agglomération à Bourgoin-Jallieu, le conservatoire à rayonnement régional de Lyon, le conservatoire régional également de Grenoble, notre périple en région nous conduit à nouveau dans le Rhône, à l'école de musique de Vincent Dandy, une école de musique intercommunale, dans la laquelle cette émission a été enregistrée le 8 novembre dernier, et plus exactement au Centre des Arts Camille Floret à Saint-Pierre-de-Chandieu. Et donc pour cette 7e émission de notre enquête, conservatoire et handicap, où en est-on ? J'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Jean-Luc Richard, qui est le directeur de l'école de musique Vincent Dandy, une école intercommunale. Alors en citant quand même un peu toutes ces communes, Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieux, Saint-Laurent, Laurent-de-Mur, Saint-Bonnet-de-Mur et Chaponnet. Et là, on se situe dans l'Est lyonnais. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Alain Goudard. On est très heureux de vous retrouver effectivement à Saint-Pierre-de-Chandieu aujourd'hui, pour cette belle journée.
Absolument ensoleillé. En plus, donc, c'est un bon moment de partage que nous allons avoir. Il y a aussi à vos côtés Blandine Lignot. Vous enseignez au sein de cette école de musique, et plus particulièrement, ce qui va être un peu le sujet du jour, vous avez contribué à la mise en place d'un certain nombre d'ateliers musique dans lesquels sont accueillis des enfants en situation de handicap. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous avons aussi José Balumbrosio, et là aussi ça va être intéressant, je pense, dans notre échange. Vous êtes animateur aussi à la DPI de Toussieux, mais aussi vous êtes aussi professeur de percussion latine à l'école de musique de Mions.
Ah si, yes. Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Et puis aussi à vos côtés, Céline Drutel, vous finissez des études de psychologie, psychologue en attente d'un emploi.
Tout à fait.
Bonjour. Bonjour. Mais aussi, vous avez accompagné et vous accompagnez Blandine Lignot aussi dans certains ateliers de musique aussi de cette école.
Voilà, tout à fait.
Voilà, bienvenue. Et puis, à vos côtés également, Aude Chancerelle, vous aussi, vous participez, vous accompagnez aussi Blandine dans ces moments de musique partagée.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Le côté aussi, bien sûr, des parents est important aussi dans ce type d'émission. Et plusieurs sont dans la salle, mais nous avons aussi également à ce micro Éric Bourgerie. Et vous êtes le papa de Mathias, qui participe lui aussi à ces moments de musique, notamment le samedi matin.
Effectivement, bonjour.
Bonjour et bienvenue. Et puis, important également d'avoir certains élèves avec nous. Et je suis vraiment très heureux d'avoir Inès Boudetza qui est là et qui participe, fait de la musique.
Oui, tout à fait, monsieur.
Bonjour Inès, merci d'être là.
Oui, alors, merci.
Bien sûr. Alors... Jean-Luc, on va peut-être commencer ensemble. Je le rappelais, vous êtes le directeur aussi de cette école de musique intercommunale de l'Est Lyonnais. Peut-être déjà, comment elle s'organise un peu, cette école ?
Alors, cette école, elle est un petit peu virtuelle puisqu'elle est, c'est effectivement un conservatoire à rayonnement intercommunal au sens du texte, des arrêtés de classement du ministère. Mais nous avons gardé cette identité école de musique qui nous semble être beaucoup plus proche des gens et qui fait que chacun peut interpréter l'école à sa façon, et ce qui est merveilleux pour tout un chacun.
Voilà. Ça veut dire que du coup, il y a un point central ou dans les et puis après des points satellites dans les différentes communes, ou au contraire,
c'est l'école où ce sont les enseignants qui vont aux élèves.
C'est
on
ça.
Peut dire ça comme ça.
Oui,
c'est-à-dire
tout à
que
fait.
La démarche est inversée. C'est une démarche ouverte vers l'autre et l'autre avec tout ce que ça représente. Et ça, pour nous, c'est très important. Et puis, dans la démarche qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est une collaboration avec l'école de musique, l'amicale laïque de Mions, qui pour nous est tout à fait précieuse parce que on a décidé d'ouvrir encore plus grand les frontières pour accueillir les divers publics.
Ce qui me permet de saluer, même s'il n'est pas là, Philippe Cross,
absolument,
qui est le directeur de l'école de musique de Mions. Et donc, du coup, il y a une collaboration étroite et c'est important de soulever,
oui,
dans ce projet-là. Alors, peut-être pour venir aussi sur notre sujet d'aujourd'hui et de cette émission, comment est venu un peu, alors on vient de l'entendre, on peut déjà le sous-tendre quand on dit effectivement que les professeurs vont dans une recherche de proximité vers l'autre, ça veut dire aussi que peut-être déjà dans la philosophie de l'école, il y a une attention à l'autre, quel qu'il soit, et quel qu'il peut être au travers de ses singularités. Donc j'imagine que peut-être cette envie de faire aussi, qu'elle s'adresse aussi à des enfants ou à des adultes en situation de handicap, fait partie de cette démarche.
Voilà, c'est une culture au sein de cet établissement qui vient, je dirais, peut-être aussi d'une démarche personnelle, parce que moi-même, musicien, j'ai eu l'occasion dans les années 90 de faire un concert dans une petite ville à Évaux-les-Bains, là où on avait tourné un passage de Tous les matins du monde, c'est à l'époque où la vielle de Gambe a été découverte massivement par les Français. Et puis, une personne est venue à moi à la suite de ce concert, et elle s'est approchée, et puis elle m'a dit, monsieur, vous êtes musicien, je suis persuadé que la musique est de nature à aider notre prochain, et en particulier les aphasiques et les autistes que j'ai l'occasion de suivre et dont je m'occupe. Et donc, je suis parti dans une grande réflexion, avec l'envie de servir, l'envie d'utiliser la musique si autant que faire se peut pour aller vers l'autre, et avec également beaucoup d'interrogations. Et donc j'ai monté un projet un peu important, puisqu'à l'époque il a été soutenu par Philippe Touste-Blazy, qui était le ministre de la Culture.
Tout à fait.
Et ça se passait avec le CNRS et dans le 15e arrondissement de Paris. Ça s'est passé un mauvais moment pour moi, parce que ça s'est passé au moment où Jacques Chirac a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et on a eu dans la foulée un premier ministre qui était différent du président. Et là, à ce moment-là, un matin, j'ai reçu un fax de Bernard Kouchner, qui s'est retrouvé secrétaire d'État à la santé, m'indiquant que tant que lui aurait une responsabilité politique, le projet auquel j'avais été associé n'aboutirait jamais. Bon. Et donc, j'ai été déprimé, je dois bien le dire.
Oui, je comprends.
Et puis, dans toutes les questions que j'ai été amené à me poser, pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse, j'ai acquis un certain nombre de convictions. Mm-hmm. Et dans ces convictions, malgré tout, j'ai eu le souhait que la personne qui pourrait proposer quelque chose à l'école que je dirigerais, ou que je dirigeais déjà, eh bien, aurait une compétence que je n'aurais pas. C'est-à-dire que mon choix se porterait sur quelqu'un qui a une démarche médicale, qui a une manière de penser formée par les médecins. C'est-à-dire que, en tant que directeur d'établissement, on a toujours un souhait, une réflexion quant à l'évaluation des pratiques, des approches dans nos conservatoires. Et je voulais recourir à une personne qui aurait la double casquette, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il soit à la fois musicien et à la fois médecin, pour que les doutes qui ont pu être les miens pour quelque chose qui n'a pu aboutir soient dès le départ levés. Voilà, c'était pour moi c'était quelque chose de très important. Et puis ça s'est concrétisé en 2007. Blandine est arrivée en 2006-2007 chez nous parce que à ce moment-là les schémas des enseignements artistiques, le ministère a fait un très gros travail et a incité fortement les écoles de musique à ouvrir leurs portes au public dit empêché, comme on disait à l'époque. Et donc ça a été, je dirais, la conjonction de tous ces facteurs qui ont contribué à l'émergence de ces cours, de ces ateliers de pratique, de création aussi. Voilà.
On va en parler aussi tout à l'heure. Et effectivement, en ressoulevant un petit peu l'original des choses, importance aussi de rappeler qu'effectivement, avec cette évolution et notamment la loi du mois de février, donc 2005, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un droit. Qui est inscrit donc dans cette loi et qui fait que par le fait de la loi de l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, tout établissement public, quel qu'il soit, et donc bien sûr les écoles de musique, les lieux de pratique, de danse, de théâtre et autres, aujourd'hui, en tout cas, sont dans l'obligation, pour y rester dans le fait domaine du droit, en tout cas de se mettre en capacité d'accueillir et en tout cas de faire en sorte qu'une personne arrivant vers eux puisse être accueillie, en tout cas qu'on puisse lui proposer un parcours cohérent au sein de cet établissement.
Complètement, avec une idée supplémentaire qui consiste à penser que, je dirais, le monde du handicap est le monde du handicap. C'est-à-dire que les handicapés ne sont pas à Saint-Pierre-Chandieu, ils sont ou à Mions. Ils sont partout. Et donc, il fallait que l'école de musique soit d'obédience ouverte, je veux dire, pour pouvoir permettre d'accueillir facilement et d'intégrer facilement des gens qui ne payent pas leurs impôts à Saint-Pierre-de-Chandieu ou à Mions. L'école est ouverte sur l'ensemble de l'Est, Sud et Sud-Est lyonnais. Effectivement, je pense que les élèves qui fréquentent nos activités viennent d'un peu partout. Et ça, je pense que pour nous, c'est tout à fait important.
Est-ce que c'est cette idée, en tout cas, puisque là, on raisonne sur un territoire, plusieurs communes, donc plusieurs élus, plusieurs modes de pensée, ont été très rapidement favorables à cette idée d'offrir cette possibilité d'accueil ?
Je dirais oui. Je dirais que oui. Je dirais qu'il y a encore un certain nombre de sujets ou de domaines pour lesquels les élus sont sensibles. Oui, oui, ça a fait consensus. Il n'y a pas eu de, on n'a pas souffert de discussions au niveau du monde politique.
Et ça, c'est important aussi de le souligner parce que ça nécessite aussi, même si la direction d'une école, le directeur d'une école a cette motivation, encore faut-il aussi qu'il puisse y avoir le soutien des élus concernés par rapport à cette démarche.
Et oui, ce sont nos bailleurs de fonds.
Exactement. Hein. Donc du coup, sur ces impulsions, sur cette volonté, sur cette mise en œuvre aussi, Blandine Lignot, vous arrivez, vous rencontrez Jean-Luc Richard, il vous fait part de ses envies dans ce domaine-là, et vous, c'est quelque chose qui résonne aussi fortement pour vous à ce moment-là ?
Oui, tout à fait. Je m'étais présentée donc à Jean-Luc Richard pour un entretien d'embauche pour être professeur de chant. Et donc, lorsqu'il m'a demandé quel était mon CV, mes formations, je lui ai répondu que j'étais médecin.
Et alors, dans quelle discipline, alors, du coup
J'étais cancérologue.
D'accord.
Oncologue médical, précisément. Voilà, donc ça nous a fait rire, évidemment. Et puis, j'imagine. La première chose qu'il m'a dit, c'est « tu n'as jamais pensé à la musicothérapie ?» Et je lui ai répondu « si, il est vrai qu'en terminale, j'avais pensé à ce métier, musicothérapeute. » On m'avait répondu à l'époque « ça n'existe pas, c'est pas un métier, il faut être soignant avant tout. » Donc j'avais mis un petit peu cette idée-là dans un coin de ma tête, mais c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je pense profondément que la musique, enfin je l'ai testée pour moi, c'est quelque chose d'important pour le bien-être. Et donc Jean-Luc m'a parlé de son projet d'ouvrir les portes de l'école de musique au public en situation de handicap. Alors l'idée a continué à germer. J'ai pas dit oui tout de suite.
Oui.
Mais quand même, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je crois que j'ai attendu 2-3 ans. Entre-temps, je me suis formée auprès de Chantal Roussel
qui préside une association l'été musical
tout à fait, voilà. Que vous connaissez hein,
tout à fait
donc j'étais à une formation de 2 jours sur ce thème-là.
Sur ce thème.
Et je suis sortie de cette formation en disant, j'étais voir Jean-Luc tout de suite.
C'est ça que je veux faire.
Je suis prête. Je suis prête, on va faire une plaquette et on va ouvrir un groupe l'année prochaine.
Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez, dans l'organigramme, dans les cours qui sont pour votre part, que vous dispensez dans l'école, une partie du chant et une partie dans ce domaine d'atelier, ou est-ce que c'est spécifiquement que dans cette rubrique-là, si je
peux
dire.
Alors je suis professeur de chant classique,
voilà.
Un peu de piano aussi, ouais. J'ai une chorale, j'avais aussi un orchestre, oui je suis prof de plusieurs autres choses.
Voilà. Oui, mais c'est intéressant voilà, de le positionner aussi comme ça, on verra dans la suite de notre échange aussi de l'émission, où c'est important. Alors peut-être du coup, comment s'organisent ces moments, ces ateliers proposés? Parce que peut-être, juste un instant avec Jean-Luc Richard, suite à cette impulsion, des parents s'étaient manifestés auprès de vous. Il y avait déjà comment il a fallu faire pour, puisque Blandine va intervenir. Là, on va arriver à ce moment-là. Mais y a-t-il déjà des élèves ou comment ces élèves sont arrivés?
Les élèves sont arrivés par Blandine, c'est-à-dire que très vite le bouche-à-oreille s'est fait et en fait c'est Blandine qui a amené les élèves puisque j'apprenais qu'elle allait dans les maisons voir les enfants. On venait la voir discrètement. On disait voilà, j'ai un enfant. Est-ce que vous pourriez venir le voir? Donc je savais qu'elle faisait des navettes et qu'elle allait chez les gens pour suivre les enfants. C'est ça.
Non, c'est du porte-à-porte, Blandine, alors?
Non, c'est pas du porte-à-porte, mais effectivement, les gens ne se présentaient pas à l'école de musique
c'est
pour
ça.
Dire voilà, on est intéressé.
C'est ça. Ouais.
Ils restaient dans un monde qui était un petit peu réservé, préservé, comment
ouais.
dire, je sais pas.
Vous n'osez pas, en tout cas, franchir la
voilà,
porte.
Voilà. Simplement, très vite, les gens ont su que Blandine avait cette compétence et les gens prenaient contact directement avec elle. Ça,
alors, peut-être, Blandine, comment se passent alors ces ateliers? Qu'est-ce qui est proposé?
Alors, il y a actuellement trois types de séances. Hein.
Oui.
Celle que nous avons montée, qui est ce projet intercommunal, qui a lieu le samedi matin. Ce sont des séances qui se passent en école de musique. Alors, initialement, c'était ici à Saint-Pierre-de-Chandieu. Actuellement, c'est à Mions. Cela dure une heure. Mmh. Il y avait avant deux groupes d'une heure le samedi matin.
Oui.
Deux groupes qui accueillaient 6 à 7 enfants, ou adultes d'ailleurs. Et des séances où nous sommes plusieurs,
oui.
Donc ça on en discutera tout à l'heure, hein,
tout
mais je
à
ne
fait.
Suis jamais seule pour les diriger, c'est mm-hmm. vraiment important. Donc nous commençons par une séance d'accueil,
oui.
Voilà, une petite chanson avec les prénoms. Puis après le contenu peut être très très varié,
varier,
s'adapte
sûr.
Aux personnes qui sont là et au projet de l'année.
C'est combien de personnes dans l'atelier?
6 à 7 personnes.
6 à 7.
Voilà. Et nous finissons par une petite chanson aussi avec les prénoms de chacun. On pourra parler plus tard peut-être du contenu. Donc là, il y avait ces deux groupes du samedi matin qui ont duré pendant plusieurs années. Il y a actuellement un des groupes du samedi matin s'est transformé en ce que j'appelle atelier création, qui est maintenant le vendredi soir, parce que certains enfants commençaient à être grands.
Oui.
Voilà, il y avait beaucoup d'adolescents et qui étaient là depuis longtemps et pour qui je sentais que ce qu'on faisait, c'était pas suffisant, on va dire. Voilà, qu'on pouvait aller plus loin avec eux. Et du coup, dans ce projet, nous montons des musiques. Mmh. Alors bon, c'est depuis l'année dernière, hein, c'est tout récent, hein, qui ont pour visée de faire des spectacles, hein, de se produire
de se
et
produire.
Puis d'inventer, ouais. De créer. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de l'ouvrir. Là, au lieu d'avoir une aide attitrée,
oui.
Mon aide, c'est un professeur de l'école de musique. Donc, l'objectif, c'est de montrer aussi aux autres professeurs. Que bah, y a pas que moi qui
peut
m'occuper
c'est
de ça.
Ça,
que eux aussi, que tout un chacun peut s'occuper de ce genre de public et
bien
créer
sûr.
Avec eux. Voilà, donc c'est généralement des projets de vacances à vacances où ils peuvent venir chacun leur tour me seconder. Et c'est un atelier qui est aussi ouvert à des élèves de l'école de musique.
Donc voilà, du coup, c'est un endroit où on peut mixer, que tout le monde
voilà,
peut se retrouver.
C'est un lieu de mixité.
Ouais, ça, c'est important. On va pouvoir aussi venir, effectivement,
voilà.
pour faire en tout cas que ça ne reste pas des cours spécifiques à réserver à un public spécifique, mais que là, la musique a bien ce lien fort de pouvoir le partager, la partager avec d'autres et de faire avec d'autres.
Tout à fait. C'est une interaction, ouais.
Alors peut-être Blandine, justement, puisqu'on vient de parler musique, d'entendre ce qui s'y passe, on évoquait création, on va peut-être écouter un premier petit extrait, là qui est une improvisation, hein, oui. Faite avec trois musiciens.
Alors oui, donc il y a un troisième projet en fait, justement, voilà. Donc ça c'est un projet qui existait déjà. Ouais. De l'école de musique de Mions. Là, je suis envoyée par l'école de musique de Mions pour aller dans un foyer d'API, les Tournesols, à Toussieu, où là, je vais pendant une heure aussi, tous les mardis matins. Il y a une douzaine d'adultes handicapés et on fait de la musique aussi avec eux. Voilà. Et donc il s'est créé au fur et à mesure des années, ça a commencé en même temps que le projet du samedi matin, hein. Au début j'allais vraiment dans ce foyer et pour but de produire des spectacles pour le ouais. foyer, et maintenant de plus en plus ces élèves interagissent avec l'école de musique où nous participons au concert de l'école de musique, et il y a des professeurs et des élèves aussi qui viennent jouer avec eux. Donc là, l'extrait qu'on va entendre, ce sont les adultes de ce foyer à DAPI.
Écoutez Résonance sur Radio B. Peut-être, Blandine Lignot, juste par rapport à ce que nous venons d'entendre, justement, une improvisation, c'est quelque chose que vous développez beaucoup avec eux, et c'est important de développer ce type de choses.
Oui, de plus en plus, et ça je m'en suis rendu compte, c'est vrai que j'ai commencé les séances avec ma formation de musicien classique qui suit les partitions, et c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai appris et que l'improvisation que je développe de plus en plus, oui. Oui.
Alors on aura l'occasion, hein, de découvrir encore une autre facette de ce moment d'improvisation. Et peut-être je vais me tourner aussi vers vous maintenant, José Balombrosio. Vous accompagnez aussi Blandine, et, mais je dirais Rosigla, il y a une double posture qui va nous intéresser aussi dans, dans, dans cette émission, le fait que vous êtes aussi animateur dans le cadre de la DAPI de Toussieux, et en même temps vous avez vos talents de musicien puisque vous faites aussi des percussions latines et que du coup vous êtes aussi un enseignant de l'école.
Voilà.
Voilà, alors comment ça s'est passé tout ça alors du coup?
Oula. Alors je suis arrivé à la DAPI en 2007 comme animateur.
Ouais.
Je parlais même pas le français, un peu à moitié, même pas. Je me présente avec mon CV et la personne, la chef de service, elle lit mon CV, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là?
Oui.
Oui, pourquoi? Votre CV, c'est un CV artistique. Je dis, oui, vous voulez un animateur? Je suis là. Et voilà, du coup, j'ai commencé à animer des ateliers chant, musique, danse.
Ça veut dire que du coup, vous êtes sur la partie. Donc là, on est dans un établissement avec des adultes.
Oui.
Voilà, qui ont peut-être un travail la journée.
Non, c'est.
Occupation.
Handicapé mental.
Oui.
Donc ils sont dans un foyer et voilà.
Donc là, c'est dans le cadre du foyer que voilà. Vous proposez aussi ces différentes activités musicales.
Voilà. Donc il y a à peu près 63 personnes.
D'accord.
Qui habite. Donc moi, je suis arrivé pour participer dans le foyer de vie, mais
oui.
Maintenant je suis dans les externes. C'est des groupes de 11 personnes qui viennent que pour la journée.
D'accord.
Voilà. Et deux ans après, je pense que j'ai rencontré Blandine. Voilà. Et c'était le choc.
Un nouveau choc.
Un nouveau choc. Et voilà, parce que c'était... L'histoire, c'était il y avait avant un professeur qui venait de l'école de musique, qui en fait,
qui intervenait lui aussi dans la DAPI.
Au départ, oui, voilà. C'était un autre professeur qui au bout de deux ans, voilà, a décidé d'arrêter et m'a proposé de prendre sa place.
De prendre le relais. Voilà. Donc, c'est comme ça que le lien a pu se construire.
Voilà, et comme au foyer, il y a plusieurs personnes qui ont de la passion pour la musique.
Oui.
On fait un rôle à tour de rôle, accompagner Blandine dans cette animation. Et je me suis
vous êtes lancé.
Acheté la place de mon collègue pour venir participer parce que c'était vraiment intéressant, quoi. Et c'était un bon échange avec Blandine et j'aimais vraiment l'idée de pas travailler toute seule, sinon rester avec plusieurs pour avoir plus de travail, quoi.
Et ça veut dire dans cet établissement, cet ADAPI de Toussieux, là on entend que vous intervenez dans le cadre d'ateliers musique.
Oui.
Ça veut dire qu'aussi qu'il y a d'autres activités artistiques, par exemple, qui sont proposées pour les personnes
oui,
aussi.
Oui, bien sûr.
Par exemple, je ne sais pas, art plastique ou par exemple de la danse.
Tout à fait.
Donc il y a aussi ça va nous intéresser un peu. Ça veut dire aussi que l'établissement en question, comme on l'évoquait de l'autre côté avec Jean-Luc Richard tout à l'heure, pour eux aussi d'avoir une démarche artistique, proposer des espaces artistiques pour les résidents de cet établissement, c'est quelque chose d'important.
C'est hyper important. et surtout parce que nous sommes dans une nécessité d'ouverture.
Oui.
Hein, il faut que l'ADAPI trouve la bonne porte d'ouverture pour dire qu'il y a une vie. Il y a une vie, c'est la vie de l'handicap. Et le moyen, je pense que le plus doux, le plus fort, c'est à travers la musique. Voilà.
Et du coup, vous avez une autre posture, puisque au fur et à mesure de cette rencontre avec Blandine, vous êtes devenu aussi un des professeurs de l'école.
Aussi grâce à Blandine. Voilà, c'est Blandine qui un jour m'a dit tiens, il y a un poste de professeur de percussion à l'école de musique de Mion, si ça t'intéresse, fais un tour. Et voilà, je suis allé faire un tour et je suis resté.
et peut-être à ce moment-là, Jean-Luc Richard, d'avoir justement la possibilité de rencontrer finalement le travail de José Balumbrosio, ça allait aussi dans votre sentiment de pouvoir avoir des professeurs qui ont cette double facette.
Alors oui, on a des professions de double facette, mais José n'enseigne pas à l'école de musique, Vincent a dit, il enseigne à l'école de musique de Mions. On a déjà 4 professeurs de percussion et un professeur de percussion digitale, voilà, Antonio Cosar.
Voilà. Donc c'est dans l'autre école dirigée par Philippe Cross.
Mais ça ne nous pose pas du tout de problème qu'il soit là.
Oh, mais bien évidemment. Non, ma foi, ça va peut-être venir, mais pour le moment, vous êtes déjà dans l'école de musique de Mions. Alors, vous l'avez soulevé, Blandine, vous l'avez soulevé aussi également, le fait de ne pas être toute seule. Finalement dans le moment d'intervention, et donc on a le plaisir aussi d'avoir autour de nous donc deux personnes qui participent à cet accompagnement à des moments donnés de certains de ces ateliers, donc à la fois Aude Chancerel et puis Céline Drutel. Peut-être Céline, alors comment c'est venu justement de cette présence au sein d'un atelier comme celui-ci dans l'école de musique?
Alors moi, je connaissais Blandine parce que j'étais son élève de chant à la base.
Donc là déjà,
voilà,
un premier lien.
Et donc j'ai commencé mes études de psychologie en même temps que j'ai souhaité rencontrer Blandine par rapport à ses ateliers. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite affiche à l'école de musique de Saint-Bonnet et je lui ai demandé s'il était possible de participer. Et voilà, du coup, je me suis lancée avec elle au début du projet. Voilà, puis ça a été... une expérience qui m'a suivi tout le long de mes études,
oui.
Et ça a été très très enrichissant.
Comment se passe un petit peu cette manière de conduire ensemble? Alors est-ce qu'il y a des moments donnés, comment est votre accompagnement dans ces moments-là auprès des enfants ou des adultes qui sont présents?
Déjà, je pense que Blandine, elle a un petit peu un squelette de séance, ouais. à chaque fois qu'on arrive.
Ouais.
Et voilà, bon, je pense que c'est plutôt, on essaye vraiment de faire en fonction de comment sont les enfants. S'il y a un enfant qui est un petit peu plus en difficulté, à ce moment-là, je vais peut-être être un petit peu plus présente à côté de lui. Voilà, c'est à la fois une aide individuelle, aussi groupale, un accompagnement.
Et en même temps musical, j'imagine que vous jouez.
Oui, bien sûr. On essaye de les stimuler, de leur montrer, de faire des questions-réponses à travers l'improvisation, par exemple. Mmh. Voilà.
Donc c'est un plaisir aussi il y a une double, j'imagine, un double regard. Il y a votre regard de formation professionnelle que vous aviez, donc du coup de vivre aussi cette expérience-là. J'imagine aussi que c'est un espace enrichissant par rapport à la rencontre de l'autre et ce type aussi d'enfant. Mm-hmm. Et puis en même temps, de voir comment une pratique artistique finalement, alors on commençait de l'entendre, est un ciment aussi pour que il se passe des choses entre tous les individus.
Oui, oui. Moi aussi j'ai appris à improviser, un peu comme Blandine. Et puis voilà, j'ai découvert des instruments aussi très
que vous n'aviez pas pratiqué, voilà, c'est ça.
Ouais. Et puis du coup, par rapport à ma formation, ça m'a aussi permis de rencontrer des enfants qui avaient des handicaps que je ne connaissais pas jusqu'à présent, des maladies, etc. Ouais. Donc c'est même vis-à-vis des parents.
C'est ça.
Une rencontre avec des parents, c'est aussi très très enrichissant.
J'imagine. Ouais. Et pour vous, alors, Aude Chancerel, comment s'est faite cette rencontre avec Blandine, alors, de ce fait?
Alors moi, j'étais également son élève, mais
bon, on voit que c'est toute une filiation.
J'étais à l'époque, depuis plusieurs années, auxiliaire de vie scolaire.
D'accord.
Et je préparais une validation d'acquis pour être enseignante spécialisée, enfin éducatrice spécialisée, puis enseignante spécialisée. Et j'ai eu vent de ces ateliers. Et la petite anecdote, c'est que je suis allée la voir en lui disant « J'aimerais bien voir comment ça se passe ». Elle m'a dit « On vient pas voir comment ça se passe ».
Ça se passe. On vient faire,
mais... Et puis, quelques mois plus tard, en décembre, elle est revenue me voir en me disant « Voilà, j'aimerais bien filmer quelques séances. Est-ce que tu serais disponible pour venir ?» Donc ça, c'était en 2010. Donc je suis venue une séance, puis deux, puis trois, et puis finalement je suis restée, voilà. Et moi, j'interviens une semaine sur deux.
Une semaine sur deux, d'accord.
Voilà, en soutien de Blandine, enfin en soutien de José et Blandine. Et voilà, comme disait Céline, il y a un petit plan de séance qui est prévu. Ouais.
Donc vous échangez ensemble un peu avec Blandine, savoir comment ça va se dérouler, ou vous vous laissez guider dans ce qu'il va y avoir.
Je pense qu'on est, on suit, mais on est chacun force de proposition. On a toujours la possibilité de partir sur une improvisation en entendant un enfant qui a une...
José, vous voulez rebondir?
Il y a aussi quelque chose qui est... nous sommes connectés. Quand il y a on a tissé des ressentis assez forts.
Oui, oui.
On l'a quelque comme on dit Céline, hein, et Blandine, elle vient avec un squelette et mm-hmm. nous, là, on ressent, on arrive à ressentir ce qu'elle va faire, on anticipe, on sait déjà, on se lance, voilà, il y a une bonne communication entre nous aussi.
Oui, puis même au niveau de la relation avec les enfants, on ne dit pas je vais m'occuper de tel enfant ou tel enfant, ça se fait spontanément, et puis par moment on ne va pas se lever parce qu'on a la conviction, on voit que l'autre va se lever, et puis on prend le relais chacun l'un de l'autre, ça se fait plutôt naturellement.
De manière très naturelle, voilà, et parce qu'il y a une grande complicité, j'imagine, qui a pu se tisser, vous connaissez, vous avez aussi l'habitude, comme vous le disiez, de sentir comment l'autre réagit ou, et du coup vous fait aussi permettre de réagir vous aussi par rapport à ce qui se passe, puis bien sûr par rapport aux enfants qui sont là. Peut-être Jean-Luc Richard, on touche un point aussi important ici, c'est-à-dire que souvent dans un conservatoire, que ce soit une école de musique, alors là c'est plutôt sur l'organisation type on va dire, on a plutôt le fait de, lorsqu'on n'est pas dans une pratique collective en tout cas, mais souvent c'est un professeur, un élève, un professeur et un ensemble, donc on est dans un aspect un peu plus dual de la rencontre, là on est à plusieurs.
Ça c'était très important pour nous, il fallait penser les choses autrement, donc c'était aussi pour ça qu'il fallait mutualiser la pratique et la formule, et Mions c'est un bon partenariat. On avait déjà un certain nombre d'enseignants, une dizaine d'enseignants en commun, puisqu'on essaye de rationaliser les compétences pour des raisons de proximité, d'organisation. Donc l'idée pour nous, c'était qu'il fallait vraiment penser autrement ces activités. Et ça me rend très heureux d'entendre ce que j'entends. C'est-à-dire que cette complicité fait qu'on est dans une démarche qui est très intuitive et qui justement, pour le coup, a beaucoup de force vis-à-vis de la mission, de l'objectif visé.
Fait.
Et donc ça c'est... Oui, il faut faire confiance aux gens. C'est ça. Je pense que l'objectif, c'était de dire ils ont une mission, ils ont quelque chose, on a confiance en eux. On les laisse travailler, on a confiance en eux. Et lorsqu'ils nous demandent quelque chose, on n'est pas là pour dire pourquoi vous nous demandez. S'ils nous demandent, c'est qu'ils ont suffisamment réfléchi à demander. Et donc, on est là pour trouver les solutions et les accompagner vers les objectifs qui sont les leurs. Oui, ça, c'est très important.
Et du coup, le fait, justement, comme vous nous l'expliquez, d'inventer, de modifier, de transformer, au regard de cette mise en place de ce projet au sein de l'école. Est-ce que le fait, du coup, de proposer un encadrement à trois, si je peux dire comme ça, ou à deux, ça fait que ça transpire quelque part ailleurs sur les autres modalités qui sont proposées au sein de l'école? Alors là, pour tout le monde.
J'ai souvent l'impression que la physique quantique prédomine le fonctionnement de notre société. C'est-à-dire qu'on peut trouver ici et là quelque chose et son contraire qui coexiste dans un même lieu, dans un même temps. Et la présence de cette activité à l'école de musique ou dans les écoles de musique dope tout le reste. Il suffit d'accueillir on sait que pour nous, d'avoir les ateliers de Blandine, enfin les ateliers du groupe, un concert d'élèves, on sait que ça va être un concert d'élèves qui va être réussi parce qu'il y a une telle énergie que c'est une comète, c'est un satellite, cette affaire-là. Donc on sait qu'on est heureux d'avoir, les avoir. Pour autant, on est dans des logiques différenciées, c'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'à côté, il y ait un professeur, un élève pour un cours particulier, ce qu'il y a de plus traditionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, un centre d'enseignement artistique, eh bien, il doit être capable de rassembler différentes approches, différentes logiques. Ce que je vous disais, quelque chose et son contraire peuvent coexister dans un même temps et dans un même endroit. C'est ça qui est souvent un peu trompeur et c'est ça qui fait qu'on est souvent désorienté. Mais je pense que c'est toujours la même chose. Au départ, il faut qu'il y ait une très grande confiance. Il faut faire confiance aux gens. On les aime, on leur fait confiance.
Alors on va pouvoir justement écouter encore un moment de complicité là aussi où on sent qu'au travers des instruments et de ce moment partagé à trois, alors là il y avait Ilmaz, Christophe et Valérie que nous allons entendre là maintenant dans une nouvelle petite improvisation. Thank you. Vous écoutez Résonance sur Radio B. Nous continuons cette émission puisque nous sommes dans l'Ouest lyonnais, dans l'école de musique de Vincent Dandy, pour évoquer à nouveau la présence aussi des personnes en situation de handicap au sein des écoles de musique et dans le cadre de notre enquête régionale. Et je voulais profiter aussi de la présence par rapport à tout ce que nous avons dit aussi dans la salle aussi de Maud Hartier, qui est professeur aussi de harpe à l'école de musique de Myon, si je ne me trompe pas.
Myon, c'est Vincent Dandy.
Et Vincent Dandy, donc dans les deux. Et vous avez, alors ça fait partie de ce que nous a expliqué Jean-Luc Richard tout à l'heure, de cette complicité et ce partage des compétences, en tout cas entre les deux écoles. Et vous aussi, vous avez participé en tout cas à certains moments donnés aux côtés de Blandine.
Oui, ça a commencé l'année dernière, puisque Blandine a proposé, comme elle le disait, d'ouvrir l'atelier du vendredi soir à d'autres professeurs de l'école de musique. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, comme d'autres profs de l'école. Et voilà, cette année, j'y retourne également, là, depuis vendredi dernier, oui, jusqu'aux vacances de Noël.
Et pour vous, c'est une nouvelle approche, tout ça, ou c'est déjà quelque chose que vous connaissiez ?
Pas de cette façon-là. On m'avait proposé, quand je commençais tout juste à enseigner, m'avait dit, j'étais dans une école dans l'Ain, on m'avait dit, tu vas faire de la musique avec des enfants handicapés. Et j'ai dit, non, en fait, j'ai pas la formation, je me sens pas. Mmh. Et puis, je me suis retrouvée à accompagner des enfants dans le cadre d'un atelier théâtre, où c'était une comédienne avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Corinne Génisti, qui travaille beaucoup en IME, etc. Elle m'a dit, viens les aider, ils font une chanson, viens jouer de l'harpe derrière. Et j'ai trouvé ça super. Et du coup, j'y suis retournée ponctuellement. Et quand Blandine a proposé ce projet, du coup, ça a fait écho à cette expérience-là. Et je me suis dit, faut que j'y retourne. Parce que je trouvais qu'il y a une énergie qui est vraiment très chouette dans ce type de groupe et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, voilà.
ça vous semble aussi important que petit à petit, d'autres de vos collègues puissent aussi avoir cette opportunité, je veux dire, de découvrir finalement un peu ce qui se passe dans ce type d'atelier pour que se dire peut-être qu'il y a des passerelles futures qui pourront peut-être s'imaginer par la suite.
Oui, je pense que c'est important, puis c'est une belle ouverture. Mais d'ailleurs, pour les professeurs qui ont participé à cet atelier l'année dernière, je pense que là, tous, on garde vraiment un très bon souvenir de notre participation, les élèves aussi qui sont venus, puisque moi j'avais amené avec moi une de mes élèves de harpe en lui proposant de venir jouer. Ouais. La prof de violoncelle avait aussi proposé à ses élèves de venir. Et il y a même des élèves qui étaient revenus, même quand le professeur ne venait plus à l'atelier, certains élèves continuaient à venir parce que c'était des beaux moments de partage. Ça complète. En fait, ça complétait bien le travail finalement d'enseignant, effectivement, de le rapport dual qu'on peut avoir avec les élèves dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais, tout à fait. Alors, autre aspect aussi important, on vient de parler des professeurs, on vient de parler de toutes ces rencontres multiples autour de ces ateliers, mais il y a aussi la présence des parents, là aussi, qui est importante. Et je suis vraiment très heureux que vous soyez aussi ici à cette table, Éric Bourgerie. Vous êtes le papa de Mathias, qui lui aussi vient participer à ces moments de musique. Alors, comment s'est fait cette approche de l'école? Est-ce que ça a été facile de trouver un lieu pour accueillir votre enfant? Comment le fait que Mathias fasse de la musique aujourd'hui, comment cette démarche elle s'est un peu mise en œuvre de votre côté?
En fait, ça a été au départ, on ne savait pas que ça existait en fait. Ouais. Donc on l'a su par connaissance. Donc la maman d'une petite fille, Charlène, qui était en cours avec Blandine, nous a dit
il y a la possibilité
ça serait
de
bien
faire
pour
de la musique.
Mathias peut-être. Ouais. De faire un test.
Il a quel âge, Mathias ?
Mathias, il a 10 ans maintenant.
Il a 10 ans.
Ça fait 4 ans, je crois, qu'il est 4 ans, oui, qu'il est avec Blandine. Donc, il est dans le groupe du samedi matin.
Ouais.
Alors, au départ, on avait un peu un doute parce que Mathias était sourd quand il était un peu plus jeune. Donc, il ne réalisait pas du tout. Mmh. Donc, les séances de musique étaient compliquées dans le sens il n'arrivait pas bien à se faire comprendre parce qu'il pratiquait, il s'exprimait par la langue des signes.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc ça apporte une complexité supplémentaire dans la relation, mais malgré tout, donc avec ses appareils, il entendait correctement. Donc du coup, il était très sensible à la musique. Donc avec le temps, sa surdité, c'est un peu étrange, mais c'était plus une surdité neurologique en fait. C'est donc ça. Du coup, c'est le cerveau qui ne décodait pas tellement bien les informations qu'il percevait. Et avec l'âge, donc l'âge en grandissant,
ça se modifie.
Ça s'est modifié. Et maintenant, il n'a plus besoin d'appareil. Mais donc c'est il entend très bien.
Il entend très bien.
Et voilà. Donc ces moments de musique, en fait, c'est des moments qu'il aime beaucoup, qui lui permettent de s'épanouir. Et il chante tout le temps, en fait. Dès qu'il y a de la musique à la maison, il se met devant la télé et puis il chante les chansons. Alors, au début, comme il oralisait, ça fait que 2 ans qu'il oralise, on a vu vraiment une évolution importante. Et donc, grâce un peu à Blandine aussi. Blandine, bien sûr, et j'oublie pas José, Céline et Aude, bien sûr.
Voilà, parce qu'on sent bien, c'est toute une équipe.
C'est une équipe, ouais. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'ils soient tous ensemble parce que, malgré tout, ce sont des séances qui sont... Bon, je vois ça d'un œil extérieur, mais qui sont difficiles à gérer parce que les enfants ont vraiment des handicaps et sont des enfants vraiment différents tous les uns des autres, qui ne se comportent pas de la même manière, qui n'ont pas le même contact avec l'adulte. Donc, je pense qu'il faut bien être plusieurs pour pouvoir organiser ces séances et en faire quelque chose de constructif et dans lequel chaque enfant s'épanouit.
Et du coup, vous avez été aussi, vous avez contribué à l'SMH, c'est-à-dire que vous en parlez avec d'autres parents, parce que peut-être d'autres aussi, comme vous, peut-être à un moment donné, se disaient, on ne sait pas, on n'est pas informé.
Alors, on en a parlé à d'autres parents, mais ça ne s'est pas fait. C'est vrai que ces enfants ont aussi pas mal d'activités, on va dire, les prises en charge.
Toutes les prises en charge qui les accompagnent au quotidien.
En dehors, en plus, des séances de loisirs, on va dire. Donc, c'est pas simple à organiser. Et souvent, les enfants, comme les nôtres, je parle pour Mathias, le week-end, ils sont fatigués de la semaine. Donc, c'est difficile de leur apporter beaucoup d'activités. Donc, la musique, c'est un bon compromis parce que c'est pas une activité physique, donc ça les fatigue pas plus. Et par contre, c'est vraiment un facteur d'épanouissement pour lui. Et je vois qu'avec le temps, il a toujours été dans la communication, mais il ne pouvait pas l'exprimer auparavant. Et avec la musique, il arrive à exprimer des émotions. Et ça lui a permis aussi dans le groupe, et là j'en remercie aussi toute l'équipe, de se canaliser parce qu'il était vraiment il sautait de chose en chose, enfin il n'arrivait pas
peut-être
à se centrer,
dispersé, difficile à concentrer.
Il se dispersait beaucoup et de temps en temps maintenant il arrive pendant les séances à ne pas bouger de sa chaise par exemple, à ne pas aller prendre l'instrument du petit voisin, à ne pas répondre à la place du voisin, donc ça l'a permis de se concentrer.
C'est sûr que la musique, de toute façon, c'est un endroit sociétal important parce que on joue ensemble, on joue avec les autres, on doit faire avec d'autres. Donc du coup, il y a comment chacun trouve sa place et c'est un des enjeux peut-être aussi des pratiques musicales en même temps. C'est que du coup, on est obligé, bien sûr, de trouver comment on peut s'exprimer à travers et poser sa parole et qu'elle a autant de place que les autres. Et en même temps, comment la musique qu'on va fabriquer, elle va quand même avoir un sens pour tout le monde parce qu'il faut que chacun soit contributeur quelque part, un peu de ce que va être cette musique, quoi. Et c'est vrai que pour quiconque, et d'autant plus pour Mathias, par exemple, comme vous le citiez, c'est un espace dans lequel on appréhende un peu comment on va pouvoir être aussi soi, mais aussi avec les autres.
Exactement. Et la tendance qu'il avait, c'était d'accaparer les adultes pour lui tout seul, parce qu'il est très très exclusif. Et le fait d'être avec d'autres enfants et de devoir tenir compte de leur présence dans ses actions... c'est aussi un facteur socialisant, entre guillemets, mais qui se fait naturellement dans le cadre musical.
Alors j'ai aussi à côté de moi, on vient d'entendre, donc merci beaucoup et Eric Bourgerie pour ce témoignage. Mais j'ai aussi à côté de moi Inès.
Bonjour.
Rebonjour Inès.
Bonjour.
Et merci d'être là en tout cas pour que du coup on puisse aussi évoquer une élève qui est là, qui va dans les cours de Blandine.
Oui.
Et c'est bien de faire de la musique alors.
Oui, ça m'apprend beaucoup de choses et je participe bien, j'écoute bien et Blondie m'encourage parce que avant j'étais son élève au cours de chant avant.
Vous avez commencé par la voix alors.
Oui.
Ah ça c'est. Et comment vous êtes venue alors à venir chanter avec Blondine alors? Il y a bien sûr la maman d'Inès qui est là, bonjour aussi, et on va peut-être faire à tous les trois, justement. Comment Inès est venue déjà d'une part à la voix pour chanter?
Inès, à la maison, chantait tout le temps. Elle était toujours en train de mettre ses cassettes, vidéos, et puis elle les écoutait, elle dansait, elle chantait, elle imitait, tout le temps. Et j'ai vu ensuite sur la commune de Mions qu'il y avait une association où on faisait du chant.
Oui.
J'ai été rencontrer la présidente à l'époque. Oui. Et dans son groupe, il n'y avait aucune personne handicapée. Non. Et donc, elle m'a dit, bah, d'abord, on va aller rencontrer le professeur de chant, voir si elle est d'accord. Donc, on est allé chez Blandine, qui nous a accueillis à bras ouverts, et qui nous a dit, il n'y a pas de problème, je peux prendre Inès aussi.
Ah, voilà. Voilà, donc c'est là où la rencontre a commencé de se faire.
Voilà, donc Inès a chanté pendant quelques années avec Blandine, avec ce cours, et d'autres personnes, entre guillemets, normales. Et ensuite, donc, et Blandine a quitté ce cours de chant pour aller donc à ce projet d'atelier musique.
Et peut-être, alors on dit que vous chantez, et on pourrait entendre quelque chose comme ça vous pourriez nous chanter quelque chose ou... Non, c'est vrai?
Non. Bon.
Alors, continuons. Donc, vous avez commencé par chanter, et puis après, vous avez rejoint donc Blandine dans un atelier de musique. Alors là, vous jouez sur des instruments?
Oui.
Et quel type d'instrument alors?
Piano, percussion.
Ouais, peut-être qu'il y a des cordes.
La guitare.
Ouais. Et du coup, vous chantiez, vous découvrez ces instruments. Oui. Et c'est aussi plaisant de découvrir aussi comment on peut faire de la musique avec ces instruments.
Oui.
Ouais.
Oui.
Ça veut dire que vous êtes plusieurs. Alors, comment ça se passe un petit peu alors?
D'abord, on chante. Ouais. En fait, Blandine me fait chanter avec la guitare, enfin, mon prénom.
Ouais. Ouais, tout va bien. Alors après, il y a après le chant avec les prénoms.
Oui, après on fait les instruments.
Les instruments.
Oui.
Et vous allez souvent vers lequel d'instrument? Il y en a un que vous préférez?
Le piano.
Vous aimez bien le piano?
Oui.
Et alors après, tout le monde joue ensemble?
Oui, tout le monde joue ensemble. Des fois, on fait des groupes.
Ouais. C'est un moment sympa.
Sympa entre nous, entre groupes, entre groupe et prof musique.
Entre groupe et professeur de musique. Vous êtes combien alors dans ce groupe alors? Vous avez des amis, des copains depuis qui sont là dans ce groupe aussi avec vous?
Oui.
Ouais.
Oui. Oui.
Blandine nous expliquait aussi à un moment donné, vous allez aussi quelquefois présenter aussi à d'autres la musique que vous avez fabriquée ensemble. C'est des moments que vous aimez, qui sont sympas à faire, ça, d'aller jouer pour les autres.
Oui, oui, on nous donne les consignes, les explications.
Oui. Et puis après, on joue.
On joue.
Voilà.
On joue.
Et en principe, tout se passe bien.
Oui.
Peut-être pour revenir encore avec vous, tout à l'heure on évoquait avec monsieur Bourgerie qu'il n'avait pas connaissance. Alors il y a eu ça, il y a le fait que Inès me semble participe aussi à d'autres. Pareil aussi, est-ce que ça vous arrive d'échanger avec d'autres parents ou de faire part qu'il se passe ça ou que d'autres parents sont en quête aussi de chercher une activité artistique?
Oui, parce que moi je participe aussi à une association sur la commune de Mions où chaque année on fait des choses et donc je rencontre des parents d'enfants handicapés. Et donc je leur parle qu'il existe donc ce groupe de musique sur Mions. Inès, quand elle était scolarisée dans un IME, ils sont souvent scolarisés loin de leur lieu d'habitation. Donc c'est pas toujours facile aux familles, aux parents de venir. Voilà, il y a pas des écoles de musique de partout où on accueille des enfants handicapés.
Bien sûr.
Voilà. Donc il y en a qui j'avais proposé quand elle était dans les établissements sur Dessine. Et Vénitieux, mais les parents étaient loin, donc ils ne pouvaient pas venir jusqu'à Mions.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une modalité aussi de communication aussi, qui serait importante? Comment les associations, alors suivant bien sûr le handicap, sont reliées? Comment on relaye ce type d'information pour que du coup les parents aient plus facilement cette... Qu'est-ce qui vous semblerait manquer quelquefois peut-être par rapport à cette information-là?
Les instituts médico-éducatifs.
Oui.
Oui.
Dans les IME, par exemple... Il n'y a pas d'informations pour les familles, aucune. Ouais. Ouais, de ce qui pourrait exister, par exemple, pour les personnes handicapées. Il existe beaucoup pour le sport, sport adapté.
Ouais.
Mais tout ce qui est culturel et artistique, c'est vrai que c'est...
Peut-être on peut se retourner à nouveau vers Jean-Luc Richard et évoquer comment peut-être à votre regard à vous et dans ce qui se passe dans l'école... comment l'information se fait-elle? C'est-à-dire, il y a aussi les capacités d'accueil, j'imagine bien, qui rentrent aussi en ligne de compte. Mais comment peut-être l'école communique en direction des parents, par exemple, ou des associations?
On vous l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de bouche-oreille, en fait,
c'est ce
qui
qu'on
fonctionne.
Entend. Ouais.
Et ça reste... Alors, l'école, effectivement, on a un site internet... Blandine a fait un article important sur le journal de la Confédération musicale de France.
Oui, tout à fait.
Il y a des informations qui existent. Il y a des plaquettes qui sont déposées dans les mairies, dans les maisons de la culture, dans les bibliothèques des communes. Pour autant,
c'est pas forcément par ce biais d'informations que ça marche.
Je pense qu'il y a un phénomène d'apprivoisement qui doit se faire. C'est le bouche à oreille. Je pense que les gens ont besoin de voir Blandine et puis. Oui, on s'observe, on s'apprivoise. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une règle, si ce n'est celle que je viens de citer.
Tout à fait.
Et donc, voilà. Après, c'est un travail de longue haleine. C'est demande beaucoup de confiance, beaucoup de patience. Voilà. Et puis, on est là pour accompagner. On est là pour permettre à ce que, effectivement, les enfants puissent s'exprimer, créer, et pleinement leur place dans la vie de nos communes. Voilà, c'est une grande, pour nous, c'est toujours beaucoup de... On apprend beaucoup, en fait. Voilà.
Je crois que c'est important. Oui, bien, Blandine, je vous en prie.
Oui, je rebondis un petit peu sur ce que la maman d'Inès disait. Il y a une autre solution aussi dans les IME. C'est vrai que les personnes viennent de loin. Une autre solution qui va se mettre en place là, par le biais de l'école de musique Vincent Dindy cette année. Il m'a été demandé cette année d'aller dans une IME, intervenir en...
directement au sein de l'établissement.
Voilà, une heure par semaine en musique, et donc je vais le faire par le biais de l'école de musique.
Oui, c'est là où on sent qu'il peut y avoir plusieurs schémas d'organisation, comme vous le disiez, dans l'école, hors de l'école, et comment on va s'inscrire dans le territoire et finalement
voilà,
dans
les lieux. C'est lourd, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, le découpage territorial, les nouveaux découpages territoriaux qui existent particulièrement dans le département du Rhône, incitent et favorisent effectivement là où on va vers le nord, plus le nord du département, puisqu'on va vers Genasse. C'est pas le nord quand même,
mais quand même.
On quitte les territoires et on s'étend. On va sur les territoires de la communauté de communes de l'Est lyonnais. Effectivement, et petit à petit, les choses se font. Et puis, je pense que cette démarche va certainement se poursuivre. Voilà, l'école de musique essaye de pouvoir répondre. Et je dirais, on a un côté structurant. Et donc, on est en mesure de pouvoir répondre à un certain nombre de questions et de problèmes techniques d'accueil de personnes. C'est vrai que souvent, l'école, travaille pour pouvoir mettre à disposition.
Eh bien, c'est sur ces mots, en tout cas, que nous arrivons au terme de cette émission. Alors, je vous remercie encore une fois, Jean-Luc Richard. Et puis, je remercie aussi Philippe Cross, bien évidemment, directeur de l'école de musique de Mions, de nous avoir permis que cette émission puisse se faire ici, au Centre des Arts Camille Floret, à Saint-Pierre de Chandieu. Merci donc aussi à tous et à toutes celles qui étaient aussi présentes aussi dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, j'étais accompagné par Simon Deborne à la technique, Laurent Cuzin à la régie générale. Une émission présentée par Alain Goudard. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 18h à 19h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, pour écouter ou pour podcaster la présente émission. Vous pouvez également vous rendre sur Radio B et son site pour écouter en direct sa grille de programme, mais aussi écouter ses émissions différées ou les podcaster, et en vous rendant sur son site www.tropicfm.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité, et que cet après-midi vous soit belle.